Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. Le monstre sur le seuil. 1. S'il est vrai que j'ai logé 6 balles dans le crâne de mon meilleur ami, j'espère par la présente déclaration démontrer que je ne suis pas son assassin. On me prendra d'abord pour un fou, plus fou encore que l'homme que j'ai abattu dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Mais plus tard, ceux de mes lecteurs qui sauront évaluer mes arguments à l'aune des faits avérés comprendront qu'il m'était impossible de croire et d'agir autrement. Pas après avoir été confronté à la réalité de cette horreur, à ce monstre sur le seuil. Je n'avais jusqu'alors accordé aucun crédit aux fables délirantes qui motivèrent mon passage à l'acte. Encore aujourd'hui, je me demande parfois si je ne me suis pas fourvoyé, ou bien si je ne suis pas réellement fou, après tout. Je l'ignore, mais d'autres que moi ont d'étranges choses à raconter au sujet d'Edward et Azenat Derby, et même les policiers apathiques sont bien en peine d'expliquer cette dernière et terrible visite. Les inspecteurs s'efforcent d'y voir quelque avertissement sordide, ou bien l'ultime mauvais tour de domestique congédié, mais, au fond d'eux-mêmes, ils savent que la vérité est infiniment plus effroyable et scandaleuse. J'affirme donc que je n'ai pas tué Edward Derby. Je l'ai plutôt vengé et, ce faisant, j'ai purgé la terre d'une abomination dont la survie aurait condamné l'humanité à devenir la proie d'indicibles terreurs. De sinistres zones d'ombre bordent les chemins de nos vies quotidiennes, et il arrive parfois qu'un esprit maléfique se fraye un passage dans notre monde. Quand cela se produit, l'homme averti doit frapper le premier, sans se soucier des conséquences. Je connaissais Edward Pickman Derby depuis sa plus tendre enfance. De 8 ans, mon cadet, il était si précoce que nous eûmes beaucoup en commun dès qu'il eut 8 ans et moi 16. Véritable enfant prodige, il écrivait déjà à 7 ans des vers d'inspiration fantastique dont la noirceur confinait à la morbidité et qui impressionnait grandement ses précepteurs. Peut-être son instruction à domicile et son confortable isolement avaient-ils contribué à son épanouissement précoce. Fils unique et objet d'adoration pour ses parents, sa complexion délicate les inquiétait à tel point qu'ils le gardaient sous étroite surveillance. Il lui était interdit de sortir sans sa gouvernante et il n'avait que rarement l'occasion de s'amuser librement avec d'autres enfants. Tout ceci favorisa sans nul doute chez lui le développement d'une étrange et secrète vie intérieure, avec l'imagination comme unique moyen d'évasion. Quoi qu'il en soit, son érudition juvénile était aussi prodigieuse que bizarre, et ses écrits, qui lui venaient facilement, me fascinaient malgré notre différence d'âge. À cette époque, j'avais une prédilection pour une certaine forme d'art grotesque, et je trouvais chez ce jeune garçon une rare affinité d'esprit. À n'en pas douter, notre amour commun pour les spectres et les merveilles puisait son origine dans les pierres anciennes, lépreuses et angoissantes de notre ville, Arkham la maudite, terre de sorcières et de légendes, dont les enchevêtrements croulants de toits en pente et de balustrades géorgiennes délabrées projettent leurs ombres séculaires sur les eaux noires et murmurantes de la rivière Miskatonic. Par la suite, j'entrepris des études d'architecture et dut renoncer à mon projet d'illustrer pour Edward un recueil de ses poèmes démoniaques, sans pour autant que notre amitié en fût affectée. Le génie décalé du jeune Derby s'affirma remarquablement, et dans sa 18e année, son anthologie d'élégies cauchemardesques, parue sous le titre d'Azathoth et autres horreurs, lui valut un certain succès. Il entretint même une correspondance suivie avec Justin Geoffrey, le poète baudelairien réputé qui publia « Le peuple du monolithe » et mourut en hurlant dans un asile d'aliénés en 1926, au retour d'une visite dans un village hongrois de sinistre renommée. Son existence choyée, cependant, n'avait guère préparé Derby à affronter les aléas de la vie pratique et de l'indépendance. Bien qu'en meilleure santé, il voyait son comportement puéril entretenu par des parents exagérément protecteurs, de sorte qu'il ne voyageait jamais seul, ne prenait aucune décision personnelle et semblait incapable d'assumer la moindre responsabilité. Il devint très vite évident qu'il ne saurait jamais faire face au monde des affaires, ou même au monde professionnel. Mais la fortune familiale était telle que cela ne tirait pas à conséquence. Malgré son entrée dans l'âge d'homme, il avait conservé un air faussement enfantin. Blond aux yeux bleus, il avait le teint rose d'un enfant, et il fallait plisser les yeux pour discerner le fantôme de moustache qu'il essayait de faire pousser. Sa voix était douce et claire, et son existence douillette et inactive conférait à sa silhouette une rondeur juvénile plutôt que l'embonpoint propre aux jeunes adultes. Il était plutôt grand, et ses traits harmonieux auraient pu faire de lui un véritable séducteur, si sa timidité maladive ne l'avait poussé à préférer la solitude et la compagnie des livres. Les parents de Derby l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il s'imprégna rapidement des usages de la pensée et de l'expression européenne. Son talent, dans la droite ligne de Poe lui-même, s'orienta de plus en plus vers une certaine littérature décadente, et s'éveilla du même coup à d'autres sensibilités et aspirations artistiques. Nous avions à cette époque de longues et passionnantes conversations. Diplômé de Harvard, j'achevais mes études dans un cabinet d'architecte de Boston et, après mon mariage, choisis de revenir à Arkham pour y exercer ma profession. Mon père étant parti en Floride pour raison de santé, ma femme et moi nous installâmes dans la demeure familiale de Stalton Street. Edward nous rendait visite presque chaque soir, si bien que j'en vins à le considérer comme un membre de la maisonnée. Il avait une façon bien à lui de sonner ou de frapper à la porte, qui finit par devenir entre nous un véritable code. Voilà pourquoi, après le dîner, je guettais ces trois coups brefs si familiers, suivis de deux autres après une courte pause. Il m'arrivait plus rarement de passer le voir chez lui, où je remarquais avec envie les mystérieux ouvrages qui venaient sans cesse grossir sa bibliothèque. Ses parents ne pouvant concevoir qu'il puisse s'éloigner d'eux, Derby fit ses études à l'université Miskatonic d'Arkham. Il y entra à l'âge de 16 ans et en sortit 3 ans plus tard, diplômé de littérature anglaise et française, brillant dans toutes les disciplines, à l'exception des mathématiques et des sciences. Il ne fréquenta guère les autres étudiants, mais se prit d'admiration pour un petit groupe incarnant la bohème et l'avant-garde, dont il singea le cynisme de façade et le langage prétendument spirituel, sans toutefois s'aventurer à imiter leur conduite douteuse. Il devint en revanche un adepte presque fanatique de cette littérature occulte et souterraine qui faisait et fait encore la renommée de la bibliothèque de l'université Miskatonic. Lui qui n'avait jusqu'alors fait qu'effleurer ces mondes étranges et fantastiques s'abîmait maintenant dans les profondeurs des arcanes et des runes léguées par un passé fabuleux pour guider ou déconcerter les générations futures. À l'insu de ses parents, il parcourut les pages de l'effroyable Livre d'Ebon, de Lunaus Preschlichen Kulten, de von Junz, et même du Necronomicon, l'ouvrage interdit d'Abdul al-Azred, l'arabe dément. Édouard avait 20 ans quand mon seul et unique enfant vint au monde, et il parut très heureux que je nomme le nouveau-né Édouard Derby Upton en son honneur. À 25 ans, mon ami était devenu un prodigieux lettré, ainsi qu'un poète et un fabuliste de renom, même si son manque de contact et de prise de responsabilité avait fini par nuire à son évolution littéraire en faisant de ses écrits des œuvres livresques dépourvues d'originalité. J'étais peut-être son ami le plus proche et trouvais en lui une source intarissable de stimulantes conversations, tandis qu'il comptait sur moi pour le conseiller sur tous les sujets qu'il ne préférait pas aborder avec ses parents. Il restait célibataire, moins par inclination personnelle que par la faute de sa timidité, de son inertie et de l'emprise parentale, et ne cédait que rarement, et seulement pour la forme, aux sirènes de la mondanité. Quand la guerre éclata, sa santé fragile et sa pusillanimité maladive l'exemptèrent de prendre les armes. Pour ma part, je fus affecté à la base militaire de Plattsburgh, mais ne fus jamais envoyé au front. Ainsi, les années passèrent. À 34 ans, Edward perdit sa mère. Le choc occasionné par ce décès le laissa prostré des mois durant, sous le coup d'une étrange affection nerveuse. Son père l'emmena en voyage à travers l'Europe, et Edward parvint à surmonter son mal sans en conserver des séquelles apparentes. Il sembla par la suite envahi de bouffées de joie grotesques, comme s'il s'était affranchi d'un invincible carcan. Malgré son âge, il se mit à fréquenter le groupe le plus éveillé de l'université et participa dès lors à certaines séances de débauche extrême. En une occasion, un maître chanteur menaça même de révéler quelques fâcheuses affaires secrètes à son père. Édouard fut contraint de m'emprunter une forte somme d'argent pour le réduire au silence. Les rumeurs les plus extravagantes couraient sur cette coterie d'étudiants dévoyés. À mi-voix, certains parlaient même de magie noire et de phénomènes défiant l'imagination. Deuxième partie. C'est à 38 ans qu'Edward fit la connaissance d'Azena Thwaite. La jeune femme avait, dans mon souvenir, environ 23 ans à l'époque, et préparait à Miskatonic un diplôme de métaphysique médiévale. La fille de l'un de mes amis l'avait déjà croisée au lycée Hall School de Kingsport, mais l'avait soigneusement évitée, à cause de son étrange réputation. Petite et brune, elle était d'une très grande beauté en dépit de ses yeux protubérants, mais quelque chose dans son expression lui aliénait la sympathie des personnes les plus impressionnables. Toutefois, le rejet qu'elle inspirait était en grande partie dû à ses origines et à sa conversation. Elle était de la famille des Waite d'Innsmouth, et nul n'ignore les sombres légendes qui planent depuis plusieurs générations sur cette ville en ruine, à moitié dépeuplée, et sur ses habitants. Certains récits évoquent d'horribles pactes scellés autour de 1850, ainsi qu'une étrange ascendance non humaine dans les vieilles familles du port de pêche délabré. Des histoires comme seuls savent si bien les inventer et les raconter les vieillards de la région. Le cas d'Azenat se trouvait aggravé du fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, qui l'avait conçue au crépuscule de sa vie avec une femme mystérieuse, au visage constamment voilé. Ephraim habitait une vétuste demeure de Washington Street à Innsmouth, et les rares personnes qui l'avaient vue, les gens d'Arkham évitaient autant que possible de se rendre à Innsmouth, affirmaient que les lucarnes étaient toujours condamnées par des planches et que d'étranges bruits s'en échappaient parfois à la nuit tombée. Le vieil homme jouissait en son temps d'une réputation d'étudiant prodigieusement doué en occultisme, et les légendes locales lui attribuaient le pouvoir de déchaîner ou d'apaiser à l'envi les tempêtes en mer. Je l'avais aperçu à une ou deux reprises dans ma jeunesse, alors qu'il venait consulter à Arkham certains ouvrages interdits de la bibliothèque universitaire, et j'avais détesté la férocité saturnienne de ses traits, comme le fouillis de sa barbe grisacée. Il était mort fou dans des circonstances plus qu'étranges. Juste avant l'entrée d'Asenat au lycée Old School, dont le proviseur était devenu par vœu testamentaire d'Ephraim le tuteur légal de sa fille. La jeune femme avait cependant été une fervente discipline de son père, et lui ressemblait par moments de façon diabolique. Quand le bruit vint à se répandre qu'Edward fréquentait Azena Thwaite, l'ami dont la fille l'avait connue sur les bancs de l'école me fit part de plusieurs faits curieux. La jeune femme, qui se prétendait magicienne, était apparemment capable de stupéfiants prodiges. Elle se vantait de pouvoir déclencher des orages, même si l'on imputait généralement son succès à quelque étonnant don de prémonition. Elle déplaisait visiblement aux animaux, toute espèce confondue, et parvenait d'une simple passe de la main droite à faire hurler un chien à la mort. Elle se rendait parfois coupable d'allusions et de termes surprenants, et très choquant pour une jeune fille de son âge. Il arrivait même à ses condisciples effrayés de surprendre venant d'elle des regards et des clins d'œil inconvenants, comme si la jeune femme tirait de sa présence dans l'école une obscène et ironique jouissance. Le plus troublant, cependant, restait son incontestable pouvoir de suggestion. Elle avait tout d'un véritable hypnotiseur. Il lui suffisait de dévisager d'une certaine manière l'une de ses camarades pour que celle-ci ait la nette impression de subir un échange de personnalité, comme si le sujet se retrouvait momentanément dans le corps de la magicienne et pouvait contempler à l'autre bout de la pièce son propre corps, dont les yeux saillaient et brûlaient d'une lueur parasite. Azénath lançait parfois d'extravagantes allégations concernant la nature de la conscience et son indépendance par rapport au plan matériel, ou du moins par rapport au processus biologique du plan matériel. Elle enrageait de ne pas être un homme, car elle estimait les cerveaux mâles dotés de formidables pouvoirs cosmiques réservés à eux seuls. « Qu'on lui donne un cerveau d'homme, déclarait-elle, et elle pourrait égaler ou même surpasser son père dans la maîtrise des forces inconnues. » Edward rencontra Azénath lors d'une réunion de l'intelligentsia universitaire tenue dans une chambre d'étudiants. Lorsqu'il me rendit visite le lendemain, il ne parla que de la jeune femme. Elle partageait aussi bien ses passions dévorantes que sa folle érudition, et qui plus est, sa beauté semblait avoir subjugué mon ami. Comme beaucoup, je la connaissais de nom, mais je ne l'avais pour ma part jamais vue et ne me rappelais que vaguement certaines rumeurs qui couraient à son sujet. Je trouvais néanmoins regrettable qu'Edward fût à ce point épris d'elle, mais me gardais bien de l'en décourager car l'adversité ne fait souvent que renforcer ce type d'engouement. Il m'avoua qu'il n'avait pas osé parler d'elle à son père. Au cours des semaines qui suivirent, le jeune Derby n'eut que le nom d'Azénath à la bouche. L'idylle tardive de ce célibataire endurci ne passa pas inaperçue, même si de la vie générale il ne faisait pas son âge et constituait pour son excentrique muse un compagnon parfaitement assorti. Son indolence et son laisser-aller ne l'avaient affligé que d'un léger embonpoint, et son visage était dépourvu de rides. Azénath, en revanche, avait au coin des yeux de précoces pattes d'oie qui révélaient l'exercice d'une volonté farouche. Edward ne tarda guère à me présenter la jeune femme, et je pus constater que leur attirance était réciproque, tant elle le couvait d'un regard presque vorace. Il était bien trop tard, pensais-je, pour tenter de démêler le lien qu'avaient noué ces deux êtres. Je reçus peu après la visite de Monsieur Derby père, pour lequel j'avais toujours éprouvé une admiration et un respect sans faille. Il avait eu vent de la passion naissante de son « gamin » et lui avait sans grand mal arraché des aveux complets. Edward projetait d'épouser Azénath et avait même déjà commencé à chercher une maison en banlieue. Comme il n'ignorait pas l'influence qu'en temps normal j'exerçais sur son fils, le pauvre homme se demandait si je pouvais l'aider à empêcher ce projet insensé. Mais je lui fis part à contre-cœur de mes doutes. Ce n'était pas la faiblesse d'âme d'Edward qui était en cause cette fois-ci, mais la volonté de faire de la jeune femme. En éternel enfant, mon ami avait tout bonnement substitué à l'image parentale une figure d'autorité nouvelle et bien plus forte, et nous n'y pouvions rien. Le mariage fut célébré un mois plus tard par un juge de paix, selon le souhait de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby ne s'y opposa pas et assista à la brève cérémonie, tout comme ma femme, mon fils et moi-même, le reste de l'assistance étant exclusivement composé de jeunes étudiants délurés. Azénath avait acquis la maison Crown and Shield, une vieille propriété située au bout de High Street, aux abords de la ville. Les deux époux devaient y emménager après un court séjour à Innsmouth, d'où ils ramèneraient trois domestiques, quelques livres et du mobilier. Et si la jeune femme avait préféré s'établir à Arkham plutôt que dans la demeure familiale, c'était probablement moins par égard pour Edward ou son père que par désir personnel de rester à proximité de l'université et tout particulièrement de sa bibliothèque et de sa clique d'élégants. Edward n'était plus tout à fait le même quand il passa me saluer au retour de sa lune de miel. Sur ordre d'Aznath, il s'était débarrassé de sa moustache chétive, mais il y avait plus que cela. Il semblait plus mesuré, plus réfléchi qu'auparavant, et son habituel mou d'enfant frondeur avait laissé place à une expression soucieuse, presque triste. Je n'étais pas certain de devoir me réjouir de ce changement, même si mon ami ne m'avait jamais paru aussi adulte qu'en cet instant. Qui sait si ce mariage n'était pas une bonne chose après tout? Ne pouvait-il que le changement de dépendance d'une figure d'autorité à une autre ait provoqué chez lui un début de rejet du principe même d'autorité, qui seul pourrait le conduire à s'assumer enfin? Il était venu seul, car Azenat était très occupée. Elle avait rapporté d'Innsmouth, et Derby frémit en prononçant ce nom, une vaste collection de livres et d'instruments, et mettait la dernière touche aux travaux de rénovation de leur demeure de Crowninshield. Edward m'avoua que la maison des Waite, située en plein cœur de cette ville, était un endroit plutôt malsain, mais qu'elle recelait quelques objets riches d'enseignements surprenants. Et sous l'égide d'Aznath, il progressait rapidement dans les sciences occultes. Elle proposait parfois de réaliser des expériences audacieuses et radicales qu'il ne se sentait pas autorisé à me décrire, mais il avait confiance en ses capacités et ses intentions. Les trois domestiques, quant à eux, étaient très étranges. Il y avait un couple extrêmement âgé qui parlait à mots couverts d'Ephraim Waite et de la défunte mère d'Azenath, leurs anciens maîtres, ainsi qu'une jeune soubrette olivâtre aux traits difformes qui exhalait continuellement une infecte odeur de poisson. Troisième partie. Au cours des deux années qui suivirent, je vis de moins en moins Derby. Une quinzaine de jours pouvaient s'écouler sans que retentisse à la porte d'entrée son signal familier. Trois coups, pause, deux coups. Quand cela arrivait, ou quand j'allais moi-même lui rendre visite, de plus en plus rarement, je dois l'admettre, il éludait soigneusement les questions essentielles. Il semblait également peu disposé à évoquer ses travaux occultes, lui qui autrefois se plaisait à me les décrire par le menu et préférait ne pas parler de son épouse. Elle s'était curieusement fanée depuis leur mariage, si bien que c'était elle désormais qui paraissait, curieusement, la plus âgée des deux. Et son visage portait les marques d'une implacable détermination, et tout dans sa personne inspirait à présent une vague et diffuse répulsion. Ma femme et mon fils l'avaient eux aussi remarqué, et nos visites à Crowninshield s'espacèrent progressivement jusqu'à cesser tout à fait, au grand soulagement d'Azenath, comme l'admit plus tard mon ami lors de l'un de ses accès d'indélicatesse puérile. De temps à autre, les Derby partaient pour de longs voyages. Ils prétendaient visiter l'Europe, bien qu'Edward fît parfois allusion à de plus mystérieuses destinations. C'est au bout d'un an que les gens d'Arkham remarquèrent la transformation d'Edward Derby. Ce n'était que de simples commérages, car ce changement était purement psychologique, mais il soulevait certains points intéressants. Par moments, Edward semblait adopter un comportement et une expression parfaitement incompatibles avec sa nature indolente. Il arrivait ainsi qu'on le voit rentrer ou sortir à toute allure de l'allée de sa maison au volant de la puissante pacarde d'Azenath, lui qui ne savait pas conduire autrefois. Il la pilotait en expert et affrontait les aléas de la circulation avec une dextérité et un aplomb tout à fait étrangers à son tempérament habituel. Et chaque fois que ces épisodes survenaient, il semblait partir ou revenir de voyage. Quelle sorte de voyage? Nul n'aurait pu le dire, même s'il empruntait la plupart du temps la route d'Innsmouth. Chose curieuse, cette métamorphose n'avait rien de plaisant. Certains lui trouvaient dans ces moments-là une ressemblance troublante avec son épouse ou avec le vieil Ephraim Waite lui-même. Mais peut-être était-ce parce que ces transformations se produisaient rarement qu'elles paraissaient anormales. Parfois, il revenait de ses escapades quelques heures seulement après être parti, mollement étendu sur la banquette arrière de la voiture, tandis qu'un chauffeur en livrée ou un mécanicien le ramenait à Crowninshield. Par ailleurs, lorsqu'il se montrait en ville pour rendre visite aux quelques amis qui lui restaient, et au nombre desquels je figurais, il retrouvait son allure indécise d'autrefois, ainsi qu'un air d'irresponsabilité juvénile encore plus marqué qu'auparavant. Alors même que le visage d'Azenath prenait de l'âge, celui d'Edward, en dehors de ces rares périodes de transformation, se relâchait en une sorte de masque exagérément enfantin, traversé par instants de fugitives expressions de tristesse ou de lucidité poignante. Tout cela était fort déconcertant. Les Derby avaient entre-temps cessé de fréquenter le cercle de noceurs de l'université, non pas du fait de leur propre aversion, me dit-on, mais parce que certaines de leurs expériences choquaient jusqu'au plus endurci des autres décadents. Ce ne fut que la troisième année de son mariage qu'Edward commença à me faire discrètement part de ses inquiétudes et de son mécontentement. Au détour d'une phrase, il laissait entendre que les choses étaient allées trop loin, ou bien évoquait d'une voix lugubre la nécessité de préserver son identité. Je ne relevais pas immédiatement ces allusions, mais elles finirent par m'alerter, et je l'interrogeai prudemment. Je n'avais pas oublié ce qu'avait dit la fille de mon ami à propos de l'influence hypnotique qu'exerçait Azénath sur ses camarades d'école, et notamment ces cas d'échange d'enveloppes physiques, au cours desquels les étudiantes avaient cru contempler leur propre corps à travers les yeux de la jeune Waite. Mes questions parurent tout à la fois effrayées et soulagées, Edward, et il me glissa que nous aurions bientôt une conversation sérieuse. Monsieur Derby père mourut à cette période, ce dont je remerciai le ciel par la suite. Si Edward en conçut beaucoup de chagrin, sa vie n'en fut guère affectée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'avait que très peu vu son père depuis son mariage, car Azénath avait comblé à elle seule son besoin de liens familiaux. Certains lui reprochèrent son apparente indifférence, d'autant plus que se multipliaient ses virées sauvages et exaltées au volant de la Packard. Quand il exprima le souhait de réintégrer la vieille demeure des Derby, Azénath refusa de quitter la maison de Croninshield, à laquelle elle s'était très bien habituée. Peu après, une amie de ma femme, l'une des rares à n'avoir pas cessé tout commerce avec les Derby, lui conta une étrange anecdote. Alors qu'elle se rendait chez eux, elle avait vu une voiture surgir de leur allée et remonter en trombe la chaussée de High Street. C'était Edward qui conduisait, les traits tordus par un sourire sardonique et conquérant. Après avoir sonné, elle s'était entendue dire par la jeune et repoussante domestique qu'Azénath s'était également absenté. Comme elle s'en retournait, elle avait jeté un coup d'œil à la maison et avait aperçu à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward un visage qui s'était aussitôt replié. Un visage empreint d'une douleur, d'un abattement et d'une mélancolie sans nom. Contre toute attente, il s'agissait d'Azénath. Mais l'ami de ma femme aurait cependant juré qu'en cet instant, c'étaient les yeux tristes et désemparés du pauvre Edward qui l'habitait. Les visites d'Edward se firent bientôt plus fréquentes et ses allusions plus concrètes. Ce qu'il me révélait était incroyable, même dans cette ancienne ville d'Arkham pleine de légendes. La sincérité et la conviction avec lesquelles il me dévoilait son ténébreux savoir me firent craindre pour sa santé mentale. Il évoquait de terrifiants conclaves tenus dans des lieux occultes, des ruines cyclopéennes enfouies au plus profond des forêts du Maine, sous lesquelles d'immenses escaliers plongeaient dans d'abyssales ténèbres foisonnant de mystères, d'angles complexes, franchissant des murs invisibles vers d'autres régions de l'espace et du temps, ainsi que d'ignobles échanges de personnalités permettant d'explorer des territoires lointains et interdits, d'autres mondes et d'autres plans d'existence. Pour étayer ces folles assertions, il me montrait parfois des objets fascinants qui me troublaient au plus haut point. Des artefacts dotés de textures stupéfiantes et de couleurs indéfinissables, complètement étrangers à notre monde, et dont les contours impossibles et les surfaces démentielles se jouaient des lois de la physique et de la géométrie. Ces choses, disait-il, provenaient de l'en dehors, et son épouse savait comment se les procurer. Quelquefois il émettait d'une voix tremblante et terrifiée d'étranges insinuations au sujet du vieil Ephraim Waite, qu'il avait croisé autrefois parmi les rayonnages de la bibliothèque universitaire. Ces insinuations esquissées à voix basse n'étaient jamais très claires, mais semblaient exprimer d'affreux doutes quant à la mort du vieux sorcier, fût-elle spirituelle ou corporelle. Par moments, Edward s'interrompait au milieu d'une phrase, et je me demandais alors si Azénath n'était pas capable d'entendre ses propos à distance et d'endiguer le flot de ses paroles grâce à quelques mesmérismes télépathiques de même nature que celui qu'elle avait employé à l'école. Elle n'ignorait certainement pas qu'Edward me livrait ses secrets, car au fil des semaines, elle déploya pour mettre fin à ses visites un véritable arsenal de paroles et de regards chargés d'une inexplicable puissance. Il ne parvenait plus à me voir qu'au prix d'immenses efforts, car même s'il prétendait se rendre ailleurs que chez moi, une force invisible entravait invariablement ses pas ou bien lui faisait oublier sa destination initiale. Ses visites avaient généralement lieu lorsqu'Azénat était partie. Partie de son propre corps, comme le fit étrangement remarquer Edward un jour. À son retour, les domestiques, qui guettaient les allées et venues de leur maître, ne manquaient pas d'en informer leur maîtresse, mais, à l'évidence, elle trouvait peu opportun de remédier à ce problème d'une manière plus radicale. Quatrième partie. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis le mariage d'Edward et Azénat, quand je reçus ce télégramme en provenance du Maine un matin d'août. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas vu mon ami, qu'on disait « en voyage d'affaires ». Azénat était censé l'avoir accompagné, mais certaines commères attentives affirmaient que quelqu'un se cachait à l'étage de la vieille demeure, derrière les doubles rideaux. Elles prétendaient en outre que les achats effectués en ville par les domestiques confirmaient leur dire. Et voici que le shérif de Chesuncook me télégraphiait qu'un déséquilibré couvert de boue avait surgi en titubant des bois et hurlé mon nom entre 2 crises de délire. Il s'agissait d'Edward, tout juste capable de se rappeler son nom et le mien, ainsi que mon adresse. Le village de Chesuncook jouxte la plus sauvage, la plus profonde et la moins explorée de toutes les forêts du Maine, et j'y parvins après une journée de voyage sous les frondaisons grandioses et inquiétantes des hautes futaies, ballottées au gré des ornières et des fondrières de la route. Je trouvais Derby prostré au fond d'une cellule de la ferme communale, oscillant entre torpeur et hystérie. Il me reconnut aussitôt et m'adressa un torrent de paroles insensées.
« Dan, pour l'amour de Dieu, la fosse au Shoggoth, au bas des 6000 marches, l'abomination des abominations. Je n'ai jamais voulu qu'elle m'y emmène et c'est là que je me suis retrouvé. Ya, Shubdut Nigurat !» La forme s'est dressée au-dessus de l'autel et 500 gorges ont rugi. La chose encagoulée et abêlée, Kamog, Kamog, c'était le nom secret du vieil Ephraïm lors de cette messe corrompue. Et j'étais là, où elle avait promis de ne jamais m'emmener. Une minute plus tôt, j'étais enfermé dans la bibliothèque et brusquement, je me retrouvais là où elle était allée avec mon corps, dans ce lieu du suprême blasphème, ce gouffre impie où se dresse la porte du royaume des ombres et son terrible gardien. J'ai vu un Shoggoth. Il changeait de forme. Je n'en peux plus, je ne le supporterai plus, je la tuerai si jamais elle me renvoie là-bas, je tuerai cette créature quelle qu'elle soit, homme, femme ou chose, je la tuerai de mes propres mains. »
Je mis près d'une heure à le calmer, mais il finit par s'apaiser. Le lendemain, je lui achetai des habits décents dans le village et nous repartîmes pour Arkham. Sa fureur hystérique était retombée et il garda longtemps le silence. Ce fut seulement quand nous traversâmes Augusta que je l'entendis marmonner lugubrement, comme si la simple vue d'une ville éveillait en lui de désagréables souvenirs. Il était évident qu'il ne souhaitait pas rentrer chez lui, et j'estimais qu'en effet cela valait mieux, étant donné les idées délirantes et fantastiques qu'il semblait entretenir à propos de sa femme. Idée sans nul doute suscitée par quelque brutale tentative d'hypnose à laquelle il avait été soumis. Je décidai donc de l'accueillir chez moi pour un temps, et peu importe si cela devait m'attirer les foudres d'Azénat. Ensuite, je l'aiderai à obtenir le divorce, car la déchéance mentale qu'occasionnait chez lui cette union le menait droit au suicide. Les murmures de Derby cessèrent dès que nous eûmes quitté la ville et gagné la campagne. Et je le laissai s'endormir sur le siège passager tandis que je conduisais. Au crépuscule, tandis que nous filions à travers Portland, Derby se remit à marmonner, plus distinctement cette fois. En tendant l'oreille, je discernais un flot d'accusations démentes au sujet d'Azénat. L'influence néfaste de la jeune femme sur les nerfs d'Edward était évidente, tant elle semblait la clé de voûte d'une incroyable construction psychotique. Son embarrassante situation actuelle, grommelait-il à la dérobée, n'était que la dernière d'une longue série, et son épouse s'emparait de lui, et il savait qu'un jour elle ne le laisserait plus. En cet instant même, sans doute, relâchait-elle son emprise uniquement parce qu'elle y était obligée, car elle ne pouvait encore tenir bien longtemps. Elle ne cessait d'emprunter son corps pour célébrer d'indicibles rites en d'indicibles endroits, et le reléguait dans sa propre enveloppe charnelle qu'elle enfermait à l'étage. Mais il arrivait que cette mystérieuse opération finisse par lui échapper, de sorte qu'Edward réintégrait parfois brusquement son corps dans quelque lieu horrible, loin de tout et souvent inconnu. Lorsque cela arrivait, elle ne parvenait pas toujours à reprendre le contrôle du corps de son époux. Voilà pourquoi Edward se retrouvait souvent dans cet état au milieu de nulle part. Il lui fallait alors parcourir de formidables distances pour regagner Arkham, puis engager des chauffeurs pour conduire la voiture après l'avoir retrouvée. Mais le pire était qu'avec le temps, Azenath était parvenue à rallonger la durée des possessions. Elle aspirait à devenir un homme, devenir pleinement humaine. Voilà pourquoi elle l'avait choisi. Elle avait senti en lui la présence combinée d'un cerveau bien fait et d'une volonté défaillante. Un jour, elle parviendrait à se débarrasser complètement de lui et s'enfuirait avec son corps. Elle s'enfuirait pour devenir un grand magicien comme son père, et lui finirait sa vie tel un naufragé dans cette enveloppe féminine qui n'était même pas entièrement humaine. Car oui, il savait désormais quel sang maudit coulait dans les veines des gens d'Innsmouth. Il savait quel pacte ignoble ils avaient scellé avec des créatures venues de l'océan. C'était épouvantable. Quant au vieil Éphraïm, il connaissait le secret de l'échange corporel, et sentant venir la mort, il avait commis un acte atroce pour lui échapper. La vie éternelle, voilà ce qu'il cherchait. Azenath finirait par réussir, car l'opération avait déjà fonctionné une fois par le passé. Tandis que Derby poursuivait ses divagations, je me tournais vers lui pour l'examiner avec attention, et je vérifiais le changement que j'avais cru observer en lui un peu plus tôt. Il semblait, paradoxalement, en bien meilleure forme qu'auparavant, plus énergique, plus mûr. Il avait perdu cette flaccidité maladive que lui conférait autrefois son train de vie indolent. Pour la toute première fois de sa vie d'enfant gâté, il m'apparaissait comme un être dynamique et vigoureux. Sans doute fallait-il y voir l'influence d'Azenath, et qui l'avait probablement poussé dans ses derniers retranchements. Mais pour l'heure, son état mental était déplorable. Il tenait des propos ahurissants au sujet d'Azenath, de magie noire du vieil Éphraïm, et d'une certaine révélation qui ne manquerait pas de me convaincre. Il répétait des noms que je connaissais pour avoir parcouru autrefois les grimoires interdits, et je frissonnais en découvrant dans sa litanie une logique symbolique d'une convaincante cohérence. De temps à autre, il s'interrompait comme pour rassembler le courage nécessaire à quelque ultime et terrible révélation. « Dan, Dan, ne te souviens-tu pas de lui ?» De ses yeux cruels et de sa barbe hirsute qui n'a jamais blanchi. Son regard noir s'est posé sur moi à l'époque et je n'ai jamais pu l'oublier. À présent, c'est elle qui me regarde ainsi, et je sais pourquoi. Il l'a trouvée dans le Necronomicon, cette maudite formule. Je n'ose pas encore te préciser la page exacte, mais je te montrerai plus tard, et tu comprendras. Alors tu sauras ce qui s'est emparé de moi. Cette chose qui refuse de mourir en passant de corps en corps, de génération en génération. L'étincelle de vie. Il sait comment briser le lien. Elle continue de scintiller peu de temps après la mort du corps. Laisse-moi te donner quelque indice, et peut-être pourras-tu deviner. Écoute-moi, Dan. Sais-tu pourquoi mon épouse se donne tant de mal pour écrire de cette absurde manière penchée? As-tu déjà contemplé un manuscrit du vieil Éphraïm? Veux-tu savoir pourquoi j'ai tremblé quand j'ai vu certaines notes hâtivement rédigées par Azenath? Azenath, existe-t-elle seulement? Pourquoi croit-il avoir trouvé du poisson dans l'estomac d'Éphraïm? Pourquoi les Guilam parlent-ils à voix basse des glapissements qu'il a poussés, des cris d'enfant terrifié quand il est devenu fou et qu'Azenath l'a enfermé dans le grenier capitonné où l'on avait cloîtré sa propre mère? Était-ce bien l'âme d'Éphraïm qu'elle avait emprisonnée? Qui a enfermé qui? Pourquoi, à ton avis, le vieux sorcier cherchait-il depuis des mois un être à l'esprit puissant et à la volonté déficiente? Pourquoi maudissait-il sa fille de n'être pas née homme? Dis-moi, Daniel Upton, quel échange abject fut perpétré dans cette maison maudite où ce monstre blasphématoire tenait à sa merci sa fille confiante, influençable et moins qu'humaine? N'a-t-il pas opéré un transfert permanent, comme elle finira par le faire avec moi? Explique-moi pourquoi cette créature qui se fait appeler Aznath change d'écriture quand elle relâche son attention, si bien qu'on ne peut différencier sa graphie de celle de... Ce fut alors que la chose se produisit. Tandis qu'il divaguait, la voix de Derby s'était faite affreusement stridente, quand elle se brisa soudain, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Me revinrent en mémoire toutes ces fois où, chez moi, il avait subitement interrompu ses confidences. Je m'étais alors vaguement imaginé qu'Azenat pouvait projeter, par la seule force de sa volonté, quelques mystérieuses ondes mentales afin de réduire Edward au silence. Ce à quoi j'assistais ce soir-là était cependant tout à fait différent, et je le sentais infiniment plus terrible. Le visage de mon ami se tordit jusqu'à devenir presque méconnaissable, tandis que le reste de son corps était parcouru d'un profond frémissement, comme si tous ses os, ses organes, ses muscles, ses nerfs et ses glandes se reconfiguraient pour adopter une posture, une physionomie et une personnalité radicalement nouvelles. Je ne saurais dire exactement où se concentrait l'horreur suprême de cette scène, mais je fus submergé par une telle vague de nausées et de répulsion, une telle impression pétrifiante et glaçante de me trouver en présence de quelque chose de fondamentalement étrange et anormal, que je sentis mes mains faiblir sur le volant. L'être à mes côtés n'était plus cet ami de toujours, mais m'apparaissait désormais comme un monstrueux imposteur venu des étoiles. L'incarnation démoniaque d'inconcevable et malveillante puissance cosmique. Profitant de ma faiblesse passagère, mon compagnon s'empara du volant et m'ordonna de changer de place avec lui. La nuit était tombée et les lumières de Portland loin derrière nous, si bien que je discernais mal les traits de son visage. Mais l'éclat de ses yeux était extraordinaire, et je compris qu'il devait se trouver dans cet étrange état d'excitation nerveuse, si contraire à sa nature, que tant d'autres avaient déjà remarqué. Il paraissait bizarre et incroyable que l'apathique Edward Derby, lui qui n'avait jamais été capable de s'affirmer et qui n'avait jamais appris à conduire, puisse exiger de prendre le volant de ma propre voiture, et pourtant c'était précisément ce qui venait de se produire. Il ne prononça pas un mot pendant un long moment, et mon épouvante était telle que j'en fus soulagé. À la lueur des réverbères de Bitford et de Sacco, je remarquai sa bouche pincée en une moue volontaire et frissonnait devant l'éclat de ses yeux. Les gens avaient raison. Il ressemblait de façon diabolique à sa femme et au vieil Éphraïm lors de ses changements d'humeur. Je ne m'étonnais guère de l'aversion que cette métamorphose inspirait alors, tant elle revêtait un aspect démoniaque et malsain. Sans compter que les affirmations délirantes qui l'avaient précédée l'apparaient d'un éclat plus sinistre encore. Cet homme n'était pas l'Edward Derby aux côtés duquel j'avais grandi, mais un étranger, un avatar surgi de quelque noir abîme. Nous roulions dans les ténèbres quand il prit enfin la parole, et lorsqu'il parla, ce fut la voix d'un inconnu qui résonna dans l'habitacle. Elle était plus grave, plus ferme et plus résolue que jamais. Même son accent et sa prononciation avaient changé, bien que certaines inflexions éveillassent en moi des souvenirs imprécis, déroutants et lointains que je ne parvenais pas à situer. Je crus déceler une pointe d'ironie profonde, presque palpable, qui n'était pas cette malice apprêtée et arrogante des jeunes étudiants élégants qu'Edward affectait d'habitude, mais une raillerie plus fielleuse, plus pure et plus mordante, teintée de malveillance. Je m'étonnais qu'un tel sang-froid succède si rapidement à un épisode de marmonnement fébrile.
« J'espère que tu me pardonneras ma crise d'anxiété, Upton, » dit-il. « Tu sais combien j'ai les nerfs fragiles, et j'en appelle à ton indulgence. Je te suis infiniment reconnaissant, bien sûr, d'être venu me chercher. Et je te prie également d'oublier toutes ces sottises que j'ai pu proférer au sujet de mon épouse et de tout le reste. Voilà ce qui arrive lorsqu'on travaille au-delà de ses forces dans un domaine comme le mien. » Ma tête est pleine d'extravagantes notions et l'épuisement a tendance à leur trouver toutes sortes d'applications concrètes. Je vais me reposer dès mon retour. Tu ne me verras probablement pas avant quelque temps. Mais surtout, n'en rejette pas la faute sur Azenath. J'admets que ma mésaventure peut paraître étrange, mais c'est en réalité fort simple. Les forêts du Nord recèlent de nombreux vestiges indiens, comme des pierres dressées et d'autres productions du même genre, qui ont une grande importance dans le folklore local. Ce genre de choses nous passionne, ma femme et moi. Ce fut cette fois-ci une expédition difficile, si bien que j'ai dû quelque peu perdre l'esprit. J'enverrai quelqu'un chercher la voiture une fois à Arkham. Un bon mois de détente devrait me remettre d'aplomb. Je ne me rappelle plus dans quelle mesure je contribuais à la conversation, tant la stupéfiante étrangeté de mon voisin m'obnubilait. L'insaisissable sentiment d'horreur cosmique qui m'avait assailli grandissait à chaque seconde, et c'est dans un état semi-délirant que je priais pour que se termine notre voyage. Derby ne proposa pas de me redonner le volant, et je fus ravi de constater avec quelle vitesse nous traversâmes Portsmouth et Newburyport. À l'intersection où la grande route s'enfonce dans les terres et contourne Innsmouth, je craignis à moitié que mon conducteur s'engage sur la lugubre route du littoral menant à cette ville maudite. Il n'en fit rien, heureusement. Et c'est en trombe que nous dépassâmes Rowley et Ipswich. Nous arrivâmes à Arkham avant minuit, trouvant les lumières de la maison Crowninshield encore allumées. Derby renouvela rapidement ses remerciements avant de descendre de voiture, et j'éprouvai un curieux soulagement en rentrant chez moi. Le voyage avait été éprouvant. D'autant plus que je n'aurais pas su vraiment expliquer les raisons de mon malaise. Et savoir que je ne reverrais pas Edward avant longtemps ne m'attristait guère.